Comment vous êtes-vous réveillé ce matin ? Avec un réveil ou naturellement ? Alors ce réveil, alors ça n'a peut-être pas sonné très fort ici, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais quand ça sonne à 4 heures du matin et qu'on se demande d'où ça vient, ben ça fait un peu bizarre. En fait, voilà, c'est juste un réveil qu'on utilise comme horloge à la maison et notre Timae s'amuse parfois à le régler sur 2 heures du matin, 4 heures du matin. Et quand on se réveille en se demandant « mais qu'est-ce qui se passe ?», ça fait un peu bizarre. On se dit « est-ce que c'est l'heure de se lever ?» Qu'est-ce que c'est ? Comment vous êtes-vous réveillé ce matin ? Votre horloge interne est-elle programmée pour vous réveiller à heure fixe, la même heure tous les matins ? Ou avez-vous besoin d'un réveil ? Alors pour ma part, j'ai habituellement besoin d'un réveil pour me lever le matin. C'est d'ailleurs un son, quel que soit le réveil, un son que je ne trouve pas très agréable. Alors parfois, on a essayé de mettre des musiques qu'on aime bien pour se réveiller, pour se dire ça va être agréable. Mais par la suite, on trouve que la musique, on ne l'aime plus trop. Alors on ne met plus de musique, parce que sinon on ne va plus l'aimer. Heureusement, depuis quelque temps, mes enfants me servent de réveil, alors on les aime toujours. En fait, ils viennent nous réveiller avant que le réveil sonne. Donc, c'est plus agréable que le réveil, et puis on se dit, ben voilà, ils sont là, donc autant se réveiller. Je fais partie des gens qui ont du mal à se lever. Une fois levé, il n'y a plus de problème. En fait, c'est le passage du sommeil au réveil qui est un peu difficile. Mais il y a un temps pour tout. C'est le titre de la prédication d'aujourd'hui. Il y a un temps pour dormir et un temps pour l'activité. Un temps pour se reposer et un temps pour travailler. Un temps pour tout. Cette phrase nous vient de l'Ecclésiaste, l'un des auteurs de l'Ancien Testament. L'Ecclésiaste est aussi appelé Kohelet en hébreu. Il désigne simplement celui qui s'adresse à une assemblée. La semaine dernière, nous avons commencé à lire le début de son livre, chapitres 1 et 2, livre qui fait partie des littératures de sagesse. Alors pour résumer en quelques mots ce que nous avons vu dans les deux premiers chapitres, le livre commence, en résumé, par cette affirmation « Sous le soleil, tout n'est que fumée. » En fait, tout n'est qu'éphémère. Sous le soleil, la vie est insignifiante. La vie passe, on naît, on meurt. Sous le soleil, la connaissance est insignifiante. La connaissance ne va pas changer le monde. Et sous le soleil, les plaisirs de la vie sont insignifiants. Parce que tout n'est que fumée, tout passera. À quoi bon ? À quoi bon ? Et s'il insiste tant pour dire que tout est insignifiant sous le soleil, c'est pour nous faire comprendre que si l'on regarde la vie simplement sous l'angle terrestre, alors la vie n'a pas vraiment de sens. Pour connaître le sens réel des événements, il faut donc regarder non pas sous le soleil, mais porter notre regard bien au-delà du soleil. Et au-delà du soleil, il y a Dieu. C'est une manière de parler. Si l'on tient compte de la présence de Dieu dans notre vie, alors notre regard sur notre existence ne sera plus le même. Le sens de notre vie avec Dieu est dévoilé. Et dans la suite de sa réflexion, l'Ecclésiaste en vient à parler du temps. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il met en évidence qu'il y a un temps pour tout. Chapitre 3, versets 1 à 15. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le soleil. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne ? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Mais si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. Dans ce texte, on peut voir clairement deux parties, deux étapes, en tout cas, dans ce discours de l'Ecclésiaste. On va commencer par les versets 1 à 8, où l'auteur écrit un poème sur le temps. Il met en évidence qu'il y a un temps pour tout. C'est la première étape de son discours. Il y a un temps pour tout. Dès le premier verset, l'Ecclésiaste annonce la couleur. Il y a un temps pour tout, il y a un moment spécifique pour chaque activité sous le soleil. Ensuite, il énonce 14 paires d'activités. À chaque fois, il annonce une action et son inverse. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. C'est la première paire. Ensuite, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. C'est la deuxième paire. Etc., etc. Et il y a en tout 14 paires. Et si je précise ce nombre, c'est parce que, à mon avis, ce n'est pas un hasard. Si l'on observe bien chaque paire d'activités, on voit qu'elles peuvent être regroupées deux par deux. Par exemple, si l'on prend les deux premières paires, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher. Ces deux premières paires ont un rapport avec la vie et la mort. Naître, mourir, planter, arracher. Et si l'on continue la liste, on peut à chaque fois regrouper les paires deux par deux. Il y a en tout donc 7 fois 2 paires. Dans la Bible, 7 est un chiffre qui revient régulièrement. Il désigne souvent ce qui est entier, ce qui est plein, la plénitude. L'Ecclésiaste commence donc par dire que dans toute notre vie, il y a un temps pour tout. Et il énonce ensuite 7 fois 2 paires d'activités pour dire qu'il y a un temps pour vraiment toute chose. Ce poème est donc assez structuré. Regardons maintenant plus en détail chaque groupe de paires. Observons les paires donc deux par deux. Pour les deux premiers, on a déjà évoqué qu'ils faisaient référence à la vie et à la mort. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Regardons les deux paires suivantes au verset 3. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Il y a un temps pour démolir et un temps pour construire. Il semble que ces termes font référence à des images militaires. Il y a un temps pour mener des guerres, pour tuer, démolir, tout comme il y a un temps pour arrêter la guerre, soigner, guérir, reconstruire. Ensuite, verset 4, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ces actions font référence aux peines et aux joies de la vie. La vie est faite de tristesse mais aussi de moments de joie. Il y a des hauts et des bas. Ensuite, verset 5, il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Ces actions font référence à l'hostilité et à la paix. Jeter des pierres et s'éloigner des embrassades, ce sont des signes d'hostilité. Ramasser des pierres et s'embrasser, ce sont des signes de paix. Dans la vie, il y a des moments où on vit l'hostilité et d'autres moments où il y a la paix. Verset 6. Il y a un temps pour chercher. Verset 6. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Ici, l'Ecclésiaste parle des biens matériels que nous possédons. Il y a un temps pour chercher et pour garder des choses. Il y a aussi un temps pour les perdre, pour s'en débarrasser. Ensuite, verset 7, il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Qu'est-ce que ces deux pères ont en commun? Déchirer, coudre, se taire, parler. À l'époque de l'Ecclésiaste, lorsque l'on était dans le deuil, on déchirait ses vêtements et on se réfugiait dans le silence. On se taisait. Déchirer et se taire lors du deuil. L'Ecclésiaste parle donc probablement de la perte d'un proche, des moments de deuil dans la vie. Il y a un temps pour faire le deuil et il y a un temps pour recommencer à vivre après le deuil. Et enfin, dernier groupe de pères, verset 8, il y a un temps pour aimer et un temps pour détester, il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ici, l'Ecclésiaste parle peut-être des relations. Dans la vie, il y a des conflits et des réconciliations. Ces sept groupes que nous venons de voir évoquent tout ce que l'on peut vivre dans une vie sous le soleil. Et selon l'Ecclésiaste, il y a un temps dans notre vie pour toutes ces choses. Je précise que Dieu n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui arrive dans le monde. Lorsque l'Ecclésiaste parle des guerres et des conflits dans les relations ou entre les peuples, il ne fait que relever que cela fait partie de la vie. Cela ne signifie pas que ces choses soient bonnes. Cela arrive sous le soleil. Mais au final, où veut-il en venir? En disant, voilà dans la vie tout ce qui peut vous arriver, où veut-il en venir? Eh bien, il termine son discours, son poème en tout cas, en posant cette question au verset 9. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? Autrement dit, voici tout ce qui peut vous arriver dans votre vie. Et il pose la question, à quoi bon? À quoi bon? La vie se résume-t-elle à des moments de réjouissance et à des moments d'épreuve? Est-ce cela la vie? La vie se résume-t-elle à ce que nous vivons sur terre? Travaille-t-on juste pour quelques jours de vacances? Travaille-t-on, je ne sais pas moi, 11 mois pour les 5 semaines de vacances par an à la montagne ou à la mer? Peine-t-on toute la semaine juste pour un petit moment de détente le week-end? Et encore? Alors il n'y a aucun mal à se détendre, hein? Mais est-ce notre raison d'être? La vie n'est-elle qu'une succession de hauts et de bas? En plus, la majorité des personnes dans le monde ont bien plus de bas que de hauts. Et ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a 5 semaines de vacances. J'ai parlé avec Jessica, qui est pasteur à Orléans, qui a vécu 10 ans au Japon, son mari qui est japonais. Elle me dit à quel point elle est contente d'avoir 5 semaines de vacances par an, parce qu'au Japon, ils ont 5 jours de vacances par an, que ce soit dans le ministère ou dans le monde du travail. L'Ecclésiaste revient souvent sur la question du sens de la vie. À quoi bon? Alors voici, non pas la réponse, mais ses réflexions à ce sujet. après avoir relevé qu'il y a un temps pour tout, dans un deuxième temps, il va souligner que tout vient de Dieu dans un but précis. Il y a un temps pour tout et tout vient de Dieu. Lorsque je dis que tout vient de Dieu, je provoque un peu. C'est une manière de dire que tout fait partie du plan de Dieu. Dieu a tout entre ses mains, il contrôle tout et il a un plan. Et rien n'échappe à son plan. En réalité, l'Ecclésiaste ne dit pas vraiment que tout vient de Dieu. Au verset 11, il écrit que Dieu fait toutes belles choses au moment voulu. Dieu a un plan et dans ce plan, il fait arriver les belles choses au moment qu'il a fixé. L'auteur met en avant que ce sont les belles choses qui viennent de Dieu. Mais cela sous-entend quand même que dans notre vie terrestre, il n'y a pas que de belles choses. Parfois, nous avons du mal à accepter qu'il y a un temps pour tout. Parfois, nous souhaiterions que certaines choses n'aient pas de fin, mais elles doivent quand même cesser un jour. À l'inverse, on aimerait parfois que certaines choses cessent, mais ce n'est pas encore le moment décidé par Dieu. Alors, on peut mettre en parallèle cette réflexion avec beaucoup de domaines de notre vie, que ce soit dans le domaine des relations, des biens matériels, de notre vie de tous les jours. Et pour être plus concret, peut-être on peut penser à l'Église aussi. Dans les églises, il y a des habitudes, des pratiques, des rituels, des activités. Sachant qu'il y a un temps pour tout, y aurait-il des choses à arrêter ou au contraire à consolider ou à démarrer? Autre exemple, nous avons des traditions sur la manière de célébrer le culte. Faut-il consolider nos pratiques ou bien les faire évoluer? Ce ne sont pas des questions faciles et je ne vise rien en particulier en disant cela, mais il faut parfois se poser ces questions car les modes de vie, les besoins changent, évoluent. Y a-t-il des pratiques à adapter pour rendre la parole de Dieu encore plus accessible? N'oublions pas que l'Église n'est pas une sorte de club destiné à répondre aux besoins de ceux qui sont déjà là, enfin, en tout cas, à répondre à nos critères personnels. L'Église est aussi une source de rayonnement, d'édification pour un très large public. Les traditions, nous y sommes attachés affectivement et nous sommes parfois pas toujours objectifs là-dessus. Mais il y a un temps pour tout. Il faut se demander parfois s'il est temps de passer à autre chose ou s'il est temps de poursuivre ce qui a été mis en place. Dans la vie, nous avons parfois du mal à accepter les changements. L'Ecclésiaste nous affirme que les différents temps de notre vie viennent de Dieu. S'il agit de cette manière, avec des changements successifs, c'est afin qu'on le craigne. Verset 14, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. » La crainte de Dieu fait partie des expressions qu'il convient de bien expliquer. Parce que Dieu ne guide pas ses enfants par la peur, mais par la foi. Craindre Dieu signifie le respecter et le suivre, tout comme un enfant devrait respecter et écouter ses parents. Je trouve tout de même intéressant que la crainte apparaisse dans le texte, car l'être humain a bien des craintes. Lorsque nous sommes face à un risque, nous avons une certaine crainte. Lorsqu'une personne, par exemple, perd son travail, elle pourrait craindre la précarité. Lorsque nous prenons la voiture dans des lieux où les gens conduisent de manière assez nerveuse, nous faisons attention car nous craignons le risque d'accident. L'être humain a des craintes et nous cherchons parfois à apaiser nos craintes grâce à ce qui nous rassure, ce que nous connaissons bien. Mais la vie est faite de changements et ce n'est pas rassurant. Les déménagements, les changements d'études, changement de travail, changement de voisin, changement dans la configuration du foyer, changement dans l'église, changement dans le quotidien du couple. Il peut y avoir un événement qui fait que dans le couple, ça ne se passe plus comme avant, etc. Les changements peuvent nous faire peur, car nous nous attachons à des repères. Et lorsque ces repères changent, cela peut nous déstabiliser, nous inquiéter. Mais l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout, même si nous n'y pouvons rien. Toutes les choses peuvent changer en mal ou en bien. Cependant, Dieu a un plan avec de belles choses en réserve. Cherchons donc à nous appuyer sur lui, lui qui ne change pas, lui qui dirige l'univers entier, lui qui existe depuis tout temps. Et je pense que c'est ce que l'Ecclésiaste veut mettre en avant lorsqu'il parle de crainte. Au lieu de craindre les pertes de repères, craignons plutôt Dieu. Autrement dit, au lieu de s'appuyer sur les choses temporelles et éphémères, appuyons-nous sur le Seigneur. Alors si l'on résume ici, il n'a pas vraiment répondu à la question « à quoi bon ?» Quel est le sens des différents temps de notre vie ? Il n'a pas vraiment donné la réponse, mais il nous invite à nous poser la question en prenant en compte l'existence de Dieu. Pour terminer, j'aimerais relever un dernier point que l'Ecclésiaste souligne au verset 11. Il souligne que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. L'homme sait très bien que lorsque sa vie terrestre prendra fin, ce n'est pas la fin de toute chose. Il y a quelque chose après la mort. La vie ne se résume pas à ce que nous connaissons sur terre. Et heureusement, la vie après la mort, c'est aussi un temps dans lequel Dieu nous invite à entrer. Et c'est ce que le Seigneur nous révèle en particulier à travers Jésus dans le Nouveau Testament, lui qui a vaincu la mort. En attendant cette vie après la mort, en attendant la fin de toutes nos peines, sachons vivre et accepter les temps par lesquels Dieu nous fait passer. Reposons-nous sur lui en ayant l'assurance qu'il fait arriver toute belle chose au bon moment. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, effectivement, nous passons par des moments de joie dans notre vie et aussi par des moments difficiles, des moments d'épreuve. Beaucoup de gens connaissent même plus d'épreuves que de réjouissances. Mais notre joie se trouve non pas dans ce monde, en tout cas dans ce que le monde nous offre. Notre joie se trouve en toi, toi qui es bien au-dessus des temps évoqués par l'Ecclésiaste. Tu nous offres d'autres temps à venir qui sont meilleurs. Merci parce que tu as mis dans notre cœur cette pensée d'éternité. Nous avons cette espérance que ce que nous vivons sur cette vie terrestre n'est pas tout. Il y a bien quelque chose après. Et tu nous donnes déjà un aperçu de ce qu'il y a après. Parce que ton Fils, Jésus, s'est introduit dans ce temps qui se passe sur terre. Et il est venu apporter l'espérance, nous montrer que la mort peut être vaincue et que nous avons une espérance en toi. Nous pouvons nous appuyer sur toi et non pas sur les choses éphémères de ce monde. Donne-nous cette foi, cette espérance, cette joie qui vient de toi et ta paix. Au nom de Jésus, Amen.